que en réalité, on a affaire là à un terme relativement impropre et que il y a soit une cohabitation, soit je dirais plutôt entre l'histoire des sciences et l'histoire des techniques, ce qu'on pourrait appeler un mariage blanc. C'est-à-dire que nous avons deux communautés professionnellement qui se tournent radicalement le dos, et ceci pour des raisons historiques. Les historiens des sciences dans l'université travaillent soit dans des départements de philosophie pour la plupart, et c'est la grande tradition française, soit dans des départements de physique. On va? Bon, il faut pas là. Bon, on reprend le protocole là. Bon, soit. Si tu veux te présenter,
non, mais
soit.
je t'ai dit que j'arrivais.
Non, non, mais comme il y
On
a.
n'est pas en retard, on a une heure d'intervention, une demi-heure de questions. Et donc là, excusez-moi, mais alors j'étais allée chercher des affaires. Vous voyez, on est dans la fête de Mendès et puis on arrive à oublier ses affaires. Mais enfin, représenter Robert Halleux, c'est quand même très important pour moi. Je ne sais pas si
Pas
ça l'est
pour
pour.
moi.
Si ça l'est pour. Bon, écoutez, Robert, tu m'avais donné un
Bon,
texte et
vas-y,
donc
oui.
très, très
Faut bien le
important
dire.
de présenter Robert Halleux. Tu vas nous parler de. Son titre sera pas l'histoire des sciences sans histoire des techniques et réciproquement. Donc Robert Halleux, membre de l'Institut, est déjà venu chez nous, fait partie des gens qui croient en ce que nous faisons et qui aiment l'espace Mendès France et ses réciproques. Robert a donné une conférence dans les Amphis du Savoir, des conférences dans le cadre du séminaire d'histoire des sciences au Moyen-Âge, plusieurs conférences sur l'alchimie, une conférence sur Claire et Artisan au Moyen-Âge. Et si. Nos amis parisiens, la communauté parisienne où se regroupent en effet toutes les instances de l'histoire des sciences est certainement très déçue que Robert Halleux ne soit pas là-bas. Mais il est chez nous et nous nous en réjouissons. Je sais que pas mal de personnes m'ont demandé par Internet est-ce que la conférence sera enregistrée parce que malheureusement je ne peux pas être là. Donc voilà pour présenter professeur Halleux, qui est docteur en philosophie et lettres, agrégé de l'enseignement supérieur et diplômé de l'école des études en sciences sociales de Paris. Donc actuellement directeur de recherche au Fonds national belge de la recherche scientifique, directeur du Centre d'histoire des sciences et des techniques de l'Université de Liège, membre de l'inscription, l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France, rédacteur en chef des Archives internationales d'histoire des sciences, directeur de deux collections de travaux de l'Académie internationale d'histoire des sciences. Des Diversis Artibus publiés chez Brepol, ce qui est très connu par les gens savants et les autres, j'espère, et Exploration publiée chez Bochelle. Donc, Robert Halleux est un spécialiste mondialement connu de l'histoire des sciences, des techniques et de l'industrie, de l'Antiquité à nos jours, et se consacre plus particulièrement aux interactions, pour ça aussi que c'est important que tu sois là, entre savoir scientifique et savoir technique, ainsi qu'aux origines des sciences appliquées. Parmi les publications récentes, on épinglera les trois volumes monumentaux de l'histoire des sciences en Belgique, des origines à 2000, et de 2 siècles de technologie, la liberté de chercher, histoire du Fonds national belge de la recherche scientifique. Et Robert Halleux travaille actuellement en parallèle à 2 ouvrages, l'histoire des techniques en Belgique, des origines à 2000, et les savoirs de la main, très, très beau titre, histoire des sciences appliquées. Donc, il est également impliqué dans le monde associatif et l'action politique au sein du Parti du Travail de Belgique. Donc quand même, il ne fallait pas rater cette présentation. Robert Halleux,
Voilà. Oui, bon.
c'est primordial que vous sachiez tout ça, parce qu'il est très modeste, mais quand même. Et puis, bon, ce titre, pas d'histoire des sciences sans histoire des techniques, je le trouve absolument très pédagogue. Et vraiment, tu as choisi ce titre ici devant les professeurs du secondaire, et ce n'est pas pour rien. Donc maintenant, je suis désolée de t'avoir
Du tout,
coupé la
on
parole. Tu as pris 5
recommencera.
minutes de ton temps, mais c'était primordial. Donc je te laisse la parole.
Merci Anne,
Merci beaucoup.
c'est gentil. Merci de tout cœur pour cette admirable nécrologie. Elle est donc toute faite, n'est-ce pas? Anne, c'était dans ce curriculum vitae, il y a une chose qui était à la fin engagée dans l'associatif et le social. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire membre de la cellule des métallos chez ArcelorMittal. Hein? Et c'est par là que tout commence finalement. Je me souviens, n'est-ce pas, avant que j'étais tout enfant. Et lorsque j'étais recherché, mon grand-père, qui était ouvrier métallurgiste, dans son usine. Mon grand-père travaillait au marteau-pilon, c'est-à-dire qu'il martelait du fer rouge et puis on le jetait dans l'eau froide. Et j'ai eu à ce moment-là, devant ce fer flamboyant, j'avais 6 ans, je crois, devant ce fer flamboyant que l'on jetait dans l'eau et qui produisait une gerbe de fumée, j'ai eu, je crois, le même émerveillement qu'un philosophe présocratique lorsqu'il pénétrait dans les fourneaux des mines du Laurion ou lorsqu'il observait les volcans de la Méditerranée. C'est de la technique que je suis parti. Et quand on est d'un milieu de mineurs et de d'ouvriers mineurs et de métallurgistes, on ne peut pas faire autrement. Et j'ai fait ma thèse sur l'histoire de la métallurgie. Et puis je me suis aventuré de là vers la théorie de la matière et puis vers l'histoire générale des sciences. Et je suis devenu en quelque sorte un généraliste. Et en faisant ce métier, je me suis aperçu d'une drôle de chose. Après 40 ans de carrière, c'est que nous parlons toujours de l'histoire des sciences et des techniques, mais qu'en réalité, il y a d'un côté l'histoire des sciences et de l'autre côté l'histoire des techniques, que c'est finalement une espèce de cohabitation, comme je disais en terminant, ou plutôt de mariage blanc. Les historiens des sciences dans le monde universitaire travaillent dans des départements de philosophie, de mathématiques, de physique, très rarement de chimie, parce qu'en chimie, l'histoire des sciences et la philosophie des sciences, ça ne passe pas. Les historiens des techniques travaillent dans des départements d'histoire, des départements de sciences économiques, très rarement dans les écoles d'ingénieurs, parce qu'en principe, pour les ingénieurs, ça ne sert à rien. Et ils peuplent surtout d'innombrables associations de retraités, en sorte que l'on pourrait presque dire que l'histoire des techniques, n'est-ce pas, c'est la plaine de jeu des ingénieurs retraités. Il y a donc là quelque chose de très curieux. Deux disciplines qui appréhendent la même réalité, c'est-à-dire le rapport de l'homme avec la matière, l'une pour la connaître, l'autre pour la transformer, et qui ne se parlent pas. Et c'est de ce problème qui est évidemment important du point de vue pédagogique, puisqu'il y a d'une part l'enseignement fondamental, théorique, et d'autre part l'enseignement technique. C'est de ce problème que je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais procéder en trois temps. Je voudrais d'abord essayer d'analyser les conditionnements épistémologiques des uns et des autres. Somme toute, vous faire une petite histoire de l'histoire des sciences et une petite histoire de l'histoire des techniques. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je voudrais vous montrer que dans un sujet qui est un sujet clé de nos disciplines, c'est-à-dire la révolution scientifique, eh bien, la conjugaison des deux approches nous permet de la comprendre autrement. Et dans un troisième temps, je voudrais de manière plus générale, à l'usage de futurs enseignants, comme je le suis moi-même, eh bien, on est tous toujours des futurs enseignants, n'est-ce pas, voir ce que finalement l'histoire conjuguée de la science et de la technique peut nous apprendre. Parlons d'abord de l'histoire des sciences. Au début de tout était l'invention. On est très curieux de voir sur les murs de certains temples grecs des catalogues d'inventeurs. Un tel a inventé ceci à telle époque. C'est ce que l'on appelle en grec un premier inventeur, un protosheurotes. Et il nous en reste, il y a eu des catalogues d'inventeurs dans l'Antiquité, et il nous en reste un qui est très beau, qui est très curieux, c'est celui qui remplit le livre 7 de Pline l'Ancien, dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien au 1er siècle de notre ère. Pline, n'est-ce pas ? Eh bien, Pline vous dit aussi bien celui qui a inventé un théorème de géométrie, un nouveau système spatial, mais aussi celui qui a inventé la faux, l'orgue hydraulique ou le fer à friser. Il y a donc une notion qui est la première de toutes, qui est la notion de propriété intellectuelle. Qui a inventé quoi ? À quoi est-ce que cela revient ? Et la deuxième question, c'est comment a-t-on inventé ? On invente en général en imitant la nature. Et là, c'est la première doctrine de l'invention qui chemine dans toute l'histoire. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens considèrent que l'histoire des sciences et l'histoire des techniques, c'est simplement le catalogue des inventions des grands inventeurs qui font de grandes découvertes pour le plus grand bien de l'humanité. Et évidemment, ces inventeurs ne sont pas n'importe qui, ce sont de grands personnages, ce sont des dieux ou des héros. Et donc, l'histoire des techniques au début, et encore très souvent aujourd'hui, et l'histoire des sciences, sont une hagiographie. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et l'histoire des sciences et l'histoire des techniques, comme discipline, sont nées et puis se sont séparées à l'époque du siècle des Lumières. Qu'est-ce que c'est que le siècle des Lumières ? Le siècle des Lumières, eh bien, c'est le moment où la révolution scientifique, assurée de maîtriser son outil méthodologique, physico-mathématique et son modèle du monde, se répand et conquiert domaine après domaine. La révolution scientifique a été élaborée dans les domaines très mathématisables comme la physique et l'astronomie. C'est l'époque où elle envahit peu à peu la chimie avec Lavoisier et ensuite la biologie au XIXe siècle. En même temps que cette conscience d'un progrès émerge la nécessité de le retracer. Et comme l'a dit Georges Gusdorf, l'histoire des sciences, c'est le vecteur rétrospectif de l'idée de progrès. Il s'agit de mesurer le chemin parcouru, un chemin, et les implications psychologiques de ça ne sont pas petites, un chemin qui est linéaire et triomphal. C'est le chemin triomphant de la raison. Et là, l'esprit des Lumières est relayé par le positivisme d'un Auguste Comte, et il faut dire qu'il y a une filiation continue depuis Condorcet, depuis le tableau historique des progrès de l'esprit humain, jusqu'à l'histoire générale des sciences de mon maître René Tatton en 1960, c'est la récapitulation d'une marche triomphale vers la vérité. Le plus beau représentant de cette histoire scientiste et positiviste, cette présentation scientiste et positiviste de l'histoire des sciences, c'est un belgo-américain, Georges Sarton, qui a créé en 1913 ce qui est encore la plus grande revue aujourd'hui d'histoire des sciences, Isis. Revue créée du nom de la, qui porte tire son nom d'une divinité égyptienne, qui a été créée en Belgique et qui est publiée aujourd'hui aux États-Unis. C'est très simple. Nous sommes, n'est-ce pas, à cette époque, juste après, d'abord un peu avant, et puis juste après la guerre de 14. On croit dans l'enthousiasme de la Société des Nations que la science fera la paix et le bonheur de l'humanité. Et donc, pour Georges Sarton, il dit, la science, dit-il, history of science is the history of mankind. L'histoire de la science, c'est l'histoire de l'humanité. En effet, c'est le seul processus universel, puisqu'il est vrai que les artilleurs américains et les tireurs d'Al-Qaïda utilisent la même balistique. C'est le seul processus cumulatif. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire qu'un tableau de Modigliani est plus beau qu'une fresque de Lascaux, mais nous pouvons dire que le plus stupide étudiant d'aujourd'hui en sait plus que le plus grand savant de l'époque de Louis XIV. Donc c'est un processus cumulatif, et comme tel, par son universalité et par son progressisme, eh bien, il est la base d'un nouvel humanisme qui transcendra les cultures. Et toute l'histoire des sciences dans les années 30 est imbibée de ce nouvel humanisme. Sarton déverse ses idées dans les éditoriaux de sa revue Isis, et curieusement, après 1945, n'est-ce pas, il y a un changement de ton. C'est qu'il y a eu Auschwitz et Hiroshima. On s'aperçoit à ce moment-là que la science, à elle seule, n'est pas génératrice de ses propres valeurs, qu'elle doit être régulée par autre chose, qu'elle peut devenir folle, qu'elle peut devenir perverse. Ce sont les aberrations, par exemple, n'est-ce pas, de la biologie nazie ou de la Deutsche Physik, une physique sans juifs, c'est-à-dire sans relativité et sans mécanique quantique, revenant de deux siècles en arrière. Bref, il y a un échec de cette vision scientiste de l'histoire des sciences, et il y a des crises dans cette vision que l'on nous enseigne encore trop souvent d'une science linéaire, comme considérée comme la plus belle incarnation de la raison et générant ses propres valeurs. Il y a deux crises majeures. La première, c'est la découverte de l'irrationnel dans la science, et la deuxième, c'est la découverte des facteurs sociologiques dans l'élaboration des faits scientifiques. En 1937, une grande galerie anglaise vendit aux enchères les papiers d'Isaac Newton. Horreur ! Il y avait de la physique là-dedans, mais il y avait de l'alchimie, il y avait de l'astrologie, il y avait du prophétisme. Bref, comme l'écrivait Keynes, Newton redevenait ou régressait au niveau de rationalité d'un Mésopotamien. Et le fait, n'est-ce pas non plus que s'aggraver, lorsqu'on a découvert que Kepler faisait des horoscopes, et pas seulement pour gagner sa vie, qu'il croyait en l'astrologie, et que René Descartes, dans ses écrits de jeunesse, attribuait la découverte de son système à une illumination du Saint-Esprit sous la forme de langue de feu. Bref, et tout ça est vrai, c'est dans les documents. Bref, il y a eu une crise de la rationalité. Le rôle de ce que l'on appelle l'hermétisme, le rôle... Ça va pour la sono? Non? Ils arrangent ou pas? Oui? Vous, vous entendez, mais il paraît que c'est, mais il faut enregistrer, vous voyez, pour perpétuer ma pensée. Mais non, tout ça est fugace, ma chère Anne. Bref, il y a eu une crise véritable lorsqu'on s'est aperçu que la science moderne avait des racines infiniment, des sources infiniment moins claires, infiniment moins pures, et qu'elle s'enracinait dans toute une irrationalité. La deuxième crise a été après les années 1950, après la guerre, et surtout dans les années 1960, dans le monde des campus, lorsqu'on a découvert les connexions entre la production de la science et les circonstances économiques et sociales. Tout a commencé par les recherches de Robert Merton, qui était un Américain, disciple de George Sarton. Robert Merton a étudié la sociologie des institutions scientifiques et notamment la curieuse concomitance entre la révolution scientifique du XVIIe siècle et la révolution d'Angleterre, c'est-à-dire Cromwell, la chute de la royauté en Angleterre. On s'est donc efforcé de mettre en rapport à ce moment-là, tant bien que mal, la sociologie des communautés scientifiques et le développement des idées elles-mêmes. C'est ce mouvement qui a donné naissance au grand ouvrage de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, qui est, pour nous autres professeurs de sciences, un livre difficile à manipuler, puisqu'il attribue le changement des idées et les révolutions scientifiques à des changements de paradigme, c'est-à-dire de consensus dans la communauté des savants. Ce qui est vérité, c'est ce qui est admis par la communauté scientifique à une certaine époque, ce qui introduit un relativisme relativement dangereux. Comme le dit Isabelle Stengers, ce que l'on appelle la science, c'est ce qui, à une époque donnée, est pratiqué par des gens qui s'appellent eux-mêmes savants. Ça signifie que l'astrologie est science à une époque, l'alchimie est science à une époque. On gomme la valeur de vérité et la science est la recherche de la vérité. On gomme les valeurs de vérité au profit d'un consensus social. Il y a là le danger d'un relativisme grave, car à force de considérer la science comme un phénomène humain trop humain, on risque de réintroduire subrepticement le divin, ou en tout cas, on favorise ceux qui veulent le faire. Voilà l'évolution de l'histoire des sciences, on le voit, elle chemine, à part cet intermède sociologique, la main dans la main avec l'histoire de la pensée et avec l'histoire de la philosophie. C'est particulièrement vrai dans la tradition scientifique française, où l'histoire des sciences a toujours été dans les mains des philosophes. Il y a une filière continue qui remonte à des époques très élevées, n'est-ce pas, à l'époque de Braunschweig, à l'époque de Tannery, et qui passe par Canguilhem, par Mademoiselle Bachelard, par Michel Serres et par les philosophes actuels. Bien. Du côté de l'histoire des techniques, le problème est tout différent. L'histoire des techniques est le pur produit au 19e, à la fin au siècle des Lumières, du triomphalisme industriel. Il s'agit, n'oubliez pas que la fin du 18e siècle, c'est la révolution industrielle, c'est-à-dire la substitution de la machine à vapeur à l'énergie hydraulique, de la fonte au coq à la fonte au bois, et de la mécanisation des entreprises. Les industriels de cette époque vont vouloir créer une culture technique. Et dans ce but, ils vont créer des musées, dont le plus célèbre est le Conservatoire des Arts et Métiers. Mais dans leur perspective initiale, il ne s'agit pas de montrer des objets anciens. Il s'agit de montrer des prototypes qui seront renouvelés sans arrêt. Et somme toute, ces musées techniques qui sont censés montrer aux artisans les modèles à imiter, à mesure que leurs collections s'enrichissent et que les objets deviennent obsolètes, vont devenir, par inertie, comme disait Bertrand Gille, des musées historiques. C'est l'histoire de notre Conservatoire des Arts et Métiers, qui est probablement le plus beau musée technique du monde. C'est l'abbé Grégoire, n'est-ce pas, ce pionnier de la libération des Noirs, ce pionnier de l'éducation. C'est l'abbé Grégoire qui va vouloir créer pour la République, pour l'édification des artisans, un musée où on montrera les machines les plus nouvelles et les plus récentes. Et le CNAM restera fidèle à cette vocation jusqu'au moment où, de génération en génération, il deviendra un musée historique. Et la première philosophie qui va inspirer ces musées historiques, qu'il s'agisse du CNAM, qu'il s'agisse du Deutsches Museum en Allemagne, qu'il s'agisse du Musée de l'Industrie à Bruxelles, qu'il s'agisse du Science Museum, c'est la récapitulation du progrès technique et la conscience d'un progrès entendu comme devant stimuler l'ingéniosité des artisans et en même temps l'orgueil des industriels. Et donc, on se trouve là devant une discipline qui est relativement peu conceptualisée, qui tire sa légitimité de son propre dynamisme et qui, pendant très longtemps, jusqu'aujourd'hui encore, va être la récapitulation de l'évolution technique des techniques. Il faudra, pour que l'histoire des techniques acquière un certain niveau de scientificité, il faudra plusieurs facteurs venus de disciplines extérieures. La première, à coup sûr, c'est le progrès de l'ethnologie et de l'anthropologie culturelle. Les travaux d'André Leroy-Gourhan sur les outils, sur les gestes élémentaires du vannier, du forgeron, du potier, vont permettre une appréhension plus fine, une typologie plus fine des gestes, des outils, d'abord dans les populations extra-européennes, mais en rejaillissant sur l'appréhension des techniques dites traditionnelles ou artisanales en Europe. C'est toute l'origine de notre musée des arts et des traditions populaires, inspiré des travaux de ces ethnologues qui ont redonné sa dignité à l'outil et en ont fait un objet scientifique. Le deuxième est certainement l'apport du marxisme. Marx est très mal à l'aise, n'est-ce pas, malgré que Kostas Axelos est dit Marx penseur de la technique. Marx est très mal à l'aise, il a toujours été avec les phénomènes d'innovation technologique. Il n'en reste pas moins que dans les pays socialistes, l'étude de la technique s'est intégrée à ce que l'on a appelé l'histoire de la culture matérielle. Et dans de nombreux pays socialistes, des instituts d'histoire de la culture matérielle ont développé l'archéologie de terrain, l'histoire des outils, l'histoire des procédés, et ont appliqué les méthodes les plus modernes, notamment les méthodes d'analyse de laboratoire, aux artefacts résultant des entreprises anciennes. Je pense en particulier du comité pour l'histoire de la sidérurgie ancienne qui avait été créée par l'Académie des sciences de Tchécoslovaquie et où le professeur Radomir Pleiner a fait des travaux tout à fait remarquables. Ethnologie, donc, d'une part, apport de l'histoire de la culture matérielle de l'autre, et enfin, il faut le dire, pour donner cette physionomie à l'histoire des techniques, ce que l'on a appelé l'archéologie industrielle. L'archéologie industrielle, mes chers collègues, a coïncidé avec le déclin de l'industrie lourde. En Angleterre d'abord, et ensuite dans les vieilles régions industrialisées du continent, la Sarre, la Ruhr, la Belgique, la Lorraine et le nord de la France. À mesure que fermaient les usines qui avaient fait la prospérité de cette région, des âmes sensibles ont éprouvé le besoin de les conserver. Je dirais méchamment, on fermait une usine, on ouvrait un musée, n'est-ce pas? Et on classait. Et on classait monuments et sites des usines mortes. Il y a beaucoup à dire sur l'archéologie industrielle et sur ses conditionnements psychologiques. D'abord, c'est une discipline qui n'a jamais trouvé sa spécificité, puisque c'est une discipline carrefour, qui touche à l'histoire industrielle, à l'histoire économique et sociale, qui touche à l'histoire orale, à l'aménagement du territoire, à l'assainissement des sites désaffectés, une perspective, une science qui a cherché à se définir et qui n'a jamais pu s'affranchir de ses conditionnements épistémologiques et sociaux. Il y a une archéologie industrielle de droite, il y a une archéologie industrielle de gauche. Elle n'a pas pu non plus se dégager de ses implications de terrain. J'ai été à plusieurs reprises expert pour le classement de vieilles usines et de patrimoine industriel. Et comme disait Henri Pirenne, l'histoire la plus intéressante, c'est quand même celle qui s'écrit au présent. On ne rend pas service à une vieille région industrielle, à une région convalescente, en laissant des plaies purulentes à son flanc. Il vaut mieux assainir et faire autre chose, et garder, pratiquer une politique de conservation sélective. Mais quoi qu'il en soit, l'archéologie industrielle a eu au moins ce mérite d'approvisionner l'histoire des techniques en matériaux de première main. Dans les usines désaffectées, on a trouvé des machines, des instruments, des archives. Nous avons passé avec mon équipe 20 ans de notre vie à constituer des collections. Et on peut maintenant passer au dernier stade, qui est celui de la conceptualisation de l'histoire des techniques. Et à la différence de l'histoire des sciences, où les concepts sont bien au point, l'histoire des techniques n'est pas conceptualisée. Pour beaucoup, c'est encore simplement une chronologie d'invention, une filiation d'invention. En réalité, un seul savant, dont l'œuvre a été interrompue par sa mort, a osé cette conceptualisation, c'est Bertrand Gilles. Il faut lire, si vous n'aviez qu'un livre à lire en histoire des techniques, c'est de lire son Histoire des techniques inachevée dans la bibliothèque de la Pléiade, inachevée et un peu bâclée, ou plutôt d'en photocopier l'introduction, où il définit véritablement une méthodologie de l'histoire des techniques, une méthodologie fondée sur l'appropriation de concepts comme celle de système technique. Une technique n'évolue pas seule, elle forme système avec d'autres techniques affluentes et effluentes. La notion de filière technologique, la notion de saturation d'un système, l'œuvre de Bertrand Gilles a eu au moins une postérité, c'est qu'elle a largement inspiré les travaux du Club de Rome. Bref, vous le voyez, nous nous trouvons devant deux traditions également respectables, à un niveau différent de conceptualisation et qui pourtant pourraient collaborer pour les questions clés de l'histoire des sciences. Et j'en prendrai, c'est ma deuxième partie, une seule. C'est l'histoire de la révolution scientifique. La révolution scientifique, comme vous savez, c'est ce grand mouvement qui commence en 1543 avec le traité des révolutions des orbes célestes de Copernic et qui s'arrête en 1687 avec les Principia d'Isaac Newton. Qu'est-ce qui change? C'est un peu long pour une révolution, c'est une longue révolution, mais tout change. Une révolution, n'est-ce pas, c'est un changement complet et un changement rapide. Ici, le changement, il est complet, mais il n'est pas rapide. Bien. Et donc, qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est deux choses qui changent. C'est d'abord la méthode de la science qui change. Pour faire de la science, on se fonde désormais sur un bipôle, le calcul et l'expérimentation. Premier point. Deuxièmement, qu'est-ce qui change? c'est le modèle du monde, c'est-à-dire un monde qui est régi par les lois de la mécanique et donc mathématisable, par les lois de la mécanique, un monde fait de particules en mouvement dans l'espace et dans le temps. Prenons ces deux points et regardons d'où ça vient. Les historiens des sciences, n'est-ce pas, ont toujours dit, ils sont partagés entre deux tendances. Les uns, qui sont plutôt les historiens des sciences de tendance chrétienne, s'efforcent, depuis Pierre Duhaime, d'établir une continuité entre la révolution scientifique et la scolastique tardive. Ce seraient les derniers scolastiques, comme Buridan, dans leur théorie du mouvement, qui auraient donné les fondements de la dynamique de Galilée. Les autres, tout au contraire, privilégient une rupture avec le Moyen-Âge et privilégient le rôle de la Renaissance. En réalité, on pourrait peut-être, et ce serait un exercice bien amusant, s'y prendre autrement. Et regarder d'où vient ce calcul, d'où vient cette expérience et d'où vient ce modèle du monde. Le calcul, c'est toute l'histoire de la géométrie et toute l'histoire de l'algèbre. Ce qui est intéressant, c'est que l'algèbre naît dans le milieu des marchands. Le Liber Abaci de Fibonacci est un livre qui résout essentiellement des problèmes de marchands. Quant à l'expérience, son histoire est complexe. Il y a deux choses dans l'expérience. Vous savez comment on définit le fait d'expérimenter. C'est le fait de provoquer une observation dont le résultat n'est pas connu d'avance, de manière à trancher, à pouvoir trancher une hypothèse. Or, il est vrai que cela ne se pratique pas, ou très peu, dans la science médiévale. Mais cela se pratique couramment chez les techniciens au Moyen-Âge. Il y a une corporation dans les ateliers monétaires que l'on appelle les essayeurs qui vérifie le titre des monnaies et la teneur des minerais dont on va tirer les métaux précieux. On connaît les essayeurs par des carnets de recettes et par des textes juridiques. On s'aperçoit qu'ils ont une méthodologie expérimentale extrêmement complexe qui consiste à multiplier toute une batterie de tests de manière à vérifier si une chose, une matière, est bonne ou fiable. Il s'agit d'éviter toute espèce de coïncidence et d'erreur d'interprétation. Donc tous les protocoles expérimentaux les plus rigoureux se trouvent dans la pratique expérimentale des essayeurs. Ce n'est pas pour rien que lorsque Galilée écrit un traité sur les où il teste les systèmes du monde, il l'intitule « Il saggiatore », c'est-à-dire l'essayeur. Ce n'est pas pour rien que la première académie italienne vouée aux sciences expérimentales s'appelle l'Accademia del Cimento. Et qu'est-ce que c'est que le ciment ou le cément? C'est une espèce de bouillie que les essayeurs mettaient sur des morceaux d'or, une bouillie faite de substances corrosives, mettaient sur des morceaux d'or pour corroder les métaux vils qui étaient alliés à l'or et laisser l'or inaltéré. Donc c'est une méthode d'essai. Cela signifie que les maîtres de la révolution scientifique elle-même savaient bien que les racines de leur procédé étaient dans la pratique artisanale, celle des essayeurs. Il y a un autre aspect dans la méthode expérimentale, c'est, n'est-ce pas, la reconstitution en petit d'un phénomène pour voir comment ça se passe. Or, depuis Vitruve, l'emploi de modèles réduits pour tester les propriétés d'un bâtiment ou d'une machine est, depuis Archimède, est employé par les ingénieurs. Il y a par exemple des récits qui ne peuvent s'expliquer que par l'emploi de modèles réduits. Exemple, on vous dit que Archimède, mollement couché sur le rivage, aurait, par un jeu de poulies, hissé une galère complète avec ses rameurs. Ça marche dans le domaine de la mécanique rationnelle, si on fait abstraction du frottement. Il est bien évident qu'avec une galère réelle, ça ne marcherait pas. Mais ça marche en modèle réduit. De même, les miroirs ardents avec lesquels Archimède aurait incendié à distance la flotte de Marcellus. Ça ne marche pas en réalité parce que les miroirs devaient être gigantesques, mais ça marche très bien avec des modèles réduits. Donc, l'explication par modèle réduit se trouve classiquement dans la tradition des ingénieurs. J'en viens aux instruments, puisqu'il n'y a pas d'expérimentation, n'est-ce pas, mes chers amis, sans instruments. Mais regardons l'histoire des instruments de la révolution scientifique. Ce sont des objets artisanaux. Galilée n'a pas inventé la lunette. On sait que Galilée a reçu, en 1609, une lunette qui se vendait sur les marchés de Hollande et que cette combinaison d'une lentille convexe et d'une lentille concave était utilisée par les chasseurs pour ajuster leurs tirs et par les artilleurs pour repérer leurs cibles. Qu'a fait Galilée ? Il est parti d'une invention artisanale et il l'a perfectionnée. Qu'on a fait des lunettes alors que l'on ne connaissait pas la dioptrique. Les polisseurs de lentilles connaissaient empiriquement les propriétés des lentilles. Qu'a fait Kepler dans sa dioptrique, et il le dit, Kepler s'est efforcé de donner la raison mathématique d'une machine existante que l'on vendait sur les marchés. Et l'on pourrait continuer, puisque nous avons parlé de la méthode, mais nous pourrions parler du modèle du monde. Le modèle, ce qui fait le monde des mécanistes, le monde de Galilée, le monde de Descartes, le monde de Harvey en physiologie, c'est un monde qui est finalement une gigantesque machine, où tout se fait par le choc et le mouvement des matières. Bien. Mais les machines elles-mêmes, les machines ont précédé la science de la mécanique. Déjà, les mécaniciens grecs s'étaient efforcés de construire une science qu'ils appelaient la syntaxe mécanique, c'est-à-dire de synthétiser ce qui existait à leur époque comme machine sous une forme aussi structurée, aussi logique, aussi raisonnée que la grammaire. Et cette tradition existe parmi tous les cahiers des ingénieurs médiévaux, chez des Villard de Honnecourt, chez des Taccola, chez des Guy de Vigevano, jusqu'au plus célèbre d'entre eux, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. On le considère comme un pionnier de la révolution scientifique. Mais relisons les cahiers, on peut maintenant les lire commodément et regarder comment il travaillait. Léonard appartient à la tradition des techniciens et la tradition des ingénieurs. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il part des machines connues à son époque, pratiquées couramment par ses contemporains sur les chantiers. Et il en fait l'anatomie, c'est-à-dire qu'il cherche à les réduire à leurs principes simples. C'est exactement ce qu'il fait lorsqu'il fait l'anatomie des oiseaux. Il dissèque des ailes d'oiseaux comme il dissèque des palans, des treuils et des poulies pour en comprendre les mécanismes simples. Et ces mécanismes simples, il s'efforce de les mathématiser pour en dégager des lois. Et donc, de la même manière, on part de la machine, on part de l'expérience des techniciens, on s'efforce d'en dégager les lois pour les appliquer à d'autres domaines. Vous le savez, la découverte de la circulation sanguine et du mouvement du cœur est l'œuvre de Harvey. Mais si vous regardez l'œuvre de Harvey, si vous regardez la terminologie latine dont il se sert, vous vous apercevez d'une chose, c'est que son vocabulaire est celui des fontainiers. C'est-à-dire que Harvey part d'un modèle, celui de la pompe. Celui de la pompe, avec son piston, son cylindre, c'est une de nos bonnes vieilles pompes à bras comme on a encore dans les campagnes, avec son piston, son cylindre, ses valves, ses soupapes. Harvey, c'est en réalité l'application à la physiologie d'un modèle technique. Et il faut lire les Discorsi, puisque nous sommes dans le domaine de la mécanique des fluides, il faut lire les Discorsi et Dimostrazioni Matematiche de Galilée, pour s'apercevoir que Galilée est dans l'arsenal de Venise et que c'est auprès des artisans de l'arsenal de Venise qu'il essaye de comprendre des problèmes comme ceux de la résistance des matériaux, de la portée des poutres, etc. Et lorsqu'il découvre la pression atmosphérique, en observant que l'eau dans les pompes ne peut pas monter au-dessus de 18 brasses, il part de l'expérience concrète des fontainiers. On le voit, il y a tout un dialogue à établir entre l'histoire de la science et de l'histoire de la technique. Ce serait une belle histoire à faire que de regarder, n'est-ce pas, comment dans une première période, jusqu'à la révolution scientifique, les savants, avec leurs théories, se sont efforcés de comprendre tant bien que mal les réalisations empiriques des artisans. Pour construire une cathédrale, curieusement, il ne fallait pas de connaissance de résistance des matériaux. Il fallait certaines constantes que les architectes avaient dans l'esprit. Mais ce serait tout aussi intéressant de s'apercevoir comment, après, lorsque la révolution scientifique est maîtresse de son outil intellectuel, c'est-à-dire l'expérience et le calcul, elle s'efforce de faire un retour vers la technique pour la discipliner. Et là, c'est toute l'œuvre du XVIIIe siècle. C'est le moment où on va s'efforcer d'appliquer les équations de la mécanique des fluides au mouvement de l'eau, ou au moment où on va essayer de calculer de la manière optimale le profil des bateaux, le moment où Coulomb va calculer les va s'efforcer d'élaborer des lois sur le frottement des cordages, le moment où va naître une géométrie industrielle. Le moment, et c'est toute l'histoire des sciences appliquées qu'il faudrait retracer. Les hauts fourneaux sont ma passion, mais lorsque on faisait fonctionner un haut fourneau, on n'avait pas la moindre idée que ce qui se passait dedans était une oxydoréduction. On n'en savait rien, c'est seulement en 1830 que les chimistes ont compris ce qui se passait à l'intérieur d'un haut fourneau. Et de là, n'est-ce pas, nous en arrivons à un monde où il y a de plus en plus de sciences, de plus en plus de sciences appliquées, où la science cherche à s'appliquer, tant bien que mal, n'est-ce pas? C'est toute l'histoire des résistances à la méthode scientifique, de la résistance de cet empirisme. Tous les professeurs diront, comme Arago, qu'il faut affranchir les artisans de la routine. Le problème, c'est que la routine marchait très bien et que les calculs étaient fort incertains. Je me souviens d'un vieux lamineur qui débranchait les contrôles laser de son laminoir parce qu'il ne se fiait qu'à son œil pour régler l'épaisseur des tôles. Vous le voyez, il y a là tout un dialogue de deux savoirs sur la matière qui gagnerait beaucoup à être développé. J'en viens maintenant à mon dernier point, et il est simple. Nous sommes tous des enseignants, nous devons enseigner des sciences et les techniques. Et il faut les enseigner ensemble. Il y a eu, comme vous savez, beaucoup de rapports, beaucoup de débats, beaucoup de motions en faveur de l'enseignement de l'histoire des sciences. Rapport Gastler, rapport Benoît Voronov, rapport Godelier, motion de l'Académie des sciences, plusieurs colloques. C'est évidemment... Ce sont des réunions et des motions dont les intérêts corporatistes ne sont pas absents, puisqu'il s'agit de trouver des places pour les historiens des sciences. Mais quoi qu'il en soit, on ne s'est jamais posé vraiment la question fondamentale. Qu'est-ce qu'une telle approche peut apporter à l'enseignement des sciences? Eh bien, d'abord, on peut faire de l'excellent enseignement des sciences sans y mettre une once d'histoire. Et il y en a beaucoup qui en font. Et il vaut mieux pas faire d'histoire que de faire de la mauvaise. Il vaut mieux pas faire d'histoire des sciences et d'histoire des techniques que de faire des catalogues d'inventions. Un tel a découvert ça à telle époque, n'est-ce pas? Le culte des grands savants, la géographie, il faut laisser ça à nos grands-parents. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Moi, je crois qu'il y a deux fonctions. La première fonction, cette histoire a une fonction identificatrice et une fonction critique. La fonction identificatrice, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la science et la technique et qui a comme racine cette démarche mystérieuse qu'on appelle la créativité. La fonction identificatrice, c'est montrer que la science évolue, qu'elle n'est pas une religion. Or, nos élèves ont trop tendance à considérer ce que nous leur enseignons comme des vérités tout acquises qui leur serviront jusqu'à la fin de leur vie. Ils devront leur apprendre, et l'histoire des sciences et des techniques nous y aide beaucoup, que la science évolue, qu'elle n'arrête jamais d'évoluer, et que ce qu'ils apprennent aujourd'hui sera périmé dans 10 ans. C'est à la fois très stimulant et très insécurisant. C'est la première fonction. Il faut leur apprendre aussi qu'il y a une méthode scientifique et que si l'on s'écarte de cette méthode, l'histoire, la science peut déraper et arriver dans des erreurs. Il n'est pas mauvais, l'histoire des erreurs, à la différence, n'est-ce pas, de cette historiographie que les Anglais appellent l'historiographie Whig, c'est-à-dire l'historiographie des triomphes, où on ne retient que ce qui reste dans la science d'aujourd'hui. Une histoire de type arborescent, avec des fausses pistes, avec des rameaux morts, est tout à fait intéressante. Il n'est pas mauvais de leur raconter un peu d'alchimie en montrant en quoi l'alchimie avait des intuitions et en quoi l'alchimie était fausse. Ceci est la première fonction, la fonction identificatrice. La deuxième fonction, et là la combinaison d'histoire des sciences et de l'histoire des techniques, est particulièrement importante, c'est sa fonction critique. La fonction critique signifie que il y a, certes, une valeur de vérité et qu'il y a des acquisitions positives, mais que la science n'est pas une île, qu'elle n'est pas isolée du contexte politique, économique et social et que celui-là peut l'influencer. Et l'histoire des incitants, des blocages, des freins, des oppositions à telle technologie, à tel progrès, immerge directement la science dans son contexte politique, économique et social, auquel il ne faut pas la réduire, mais dont on ne peut pas l'abstraire. L'histoire, je me suis souvent posé la question du sens de ce que je faisais. Et je crois que l'histoire, finalement, dans l'enseignement des sciences, comme dans tout enseignement, c'est la présence vigilante de l'esprit critique, de la démarche de l'esprit critique, de la liberté de penser, dans la démarche de construction du savoir. Je pense que c'est l'histoire, et elle seule, qui empêchera notre enseignement de devenir un dressage de chien de garde. Je vous remercie.
Bon, c'était magnifique comme d'habitude, parce que chaque conférence de Robert Halleux est une nouvelle conférence. Et quand on demande à Robert de ce qu'il veut, sur quel thème il va intervenir, tu connais tout. Ça veut dire qu'en fait, c'était très important que ce soit la conférence de clôture de ces journées d'études avec nos enseignants, parce que je crois que là, ils ont tout eu, une leçon d'histoire, des sciences. Qu'est-ce que c'est que l'histoire des sciences? C'est important, parce qu'on est vraiment dedans, il ne faut pas l'oublier. Une histoire des techniques, on en a fait aussi. Une méthodologie, comment travailler en histoire des sciences, quelles sont les méthodes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et puis aussi d'où ça vient, hein, d'où ça vient, parce que tu n'oublies jamais en effet que quand tu nous racontes l'histoire des techniques, ce sont des gens qui sont partis de la main. Donc Robert, comme d'habitude, c'est une grande émotion pour moi, et puis j'espère qu'il y aura des questions dans la salle, et je les attends avec impatience, et Robert Halleux est à votre disposition.
Ça c'est vrai. Monsieur.
Je vais me lancer. Moi, j'avais une question. C'était quand vous disiez qu'il y avait un renversement avec la théorie triomphante qui permettait de précéder en fait la technique. On m'a souvent parlé de l'irruption de l'électronique semi-conducteur, qui est en fait issue de la théorie au préalable et qui est en fait est d'abord comment dire, qui fait le triomphe du calcul, puisque ça a des applications directes et qui nous permet aujourd'hui de toujours prévoir ce qui va se passer dans le futur avec les ordinateurs, tous les systèmes électroniques, parce que c'est prévisible dans la théorie.
Eh ben, écoutez, c'est justement, c'est un exemple superbe, monsieur, parce qu'on est à l'aboutissement du processus, voyez. Imaginez, on va commencer l'histoire un peu plus, très vieux. Dans les académies au XVIIe siècle, on est sûr qu'avec la méthode mathématique et l'expérimentation, on peut tout perfectionner. Or, les artisans, eh bien, ils sont esclaves de la routine. Par exemple, je prends un vieil exemple, pour construire des piles de ponts, on les construit beaucoup plus grosses que ce n'est nécessaire, alors qu'avec, en les calculant bien, on pourrait faire des grosses économies. C'est le début, c'est comme ça que ça commence. Et donc vous avez pendant tout le 17e, 18e, 19e, le savoir traditionnel, empirique, acquis par des constantes que l'on sait dans la tête, qui recule devant le savoir des ingénieurs. Ce n'est pas toujours facile, hein? Il y a beaucoup d'industriels au 19e qui ne veulent pas d'ingénieurs parce qu'ils sont trop théoriciens. J'adore raconter cette histoire que disait Lemfieux, maître de forge, n'est-ce pas ? Il y a pour un industriel trois manières de se ruiner : les femmes, le jeu et les ingénieurs. La première, c'est la plus amusante, et la troisième, c'est la plus sûre. Donc, il faisait pas confiance à la théorie. Bien. Et à mesure que ça approche, n'est-ce pas, vous savez qu'on distingue trois révolutions industrielles. La première avec la vapeur, la deuxième avec l'acier, l'électricité, les moteurs à combustion interne. Et la troisième, celle que nous connaissons pour le moment, ben, dans la deuxième, déjà, il faut, n'est-ce pas, beaucoup de connaissances théoriques, par exemple, pour faire de l'électricité. Il faut beaucoup de physique, d'accord ? Par exemple, l'inventeur de la dynamo, Zenob Gram, qui était un bricoleur, dit à un physicien qui calculait les équations de la dynamo, il dit, s'il m'avait fallu savoir tout ça pour l'inventer, je ne l'aurais jamais inventé. Donc, on est à une phase de transition. C'est le règne, la deuxième industrialisation, c'est le règne des ingénieurs universitaires et des hautes écoles. Jusqu'alors, les ingénieurs n'allaient que dans les grands corps de l'État. Ils étaient mines, n'est-ce pas, ils étaient ponts, mais ils n'entraient pas dans les industries. À partir de ce moment-là, ils vont entrer dans toutes les industries. On va prendre des ingénieurs partout, on va prendre des physiciens. C'est la grande époque de la thermodynamique. C'est l'époque, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la science industrielle de Le Chatelier. Troisième période, et j'en viens à votre question, n'est-ce pas, monsieur? Eh bien, le savoir traditionnel dans le développement technologique ne joue plus aucun rôle. Tout part, évidemment, de la recherche théorique. Et à cet égard, l'histoire des ordinateurs est particulièrement intéressante, puisqu'elle s'ancre, d'une part un peu dans les mécaniciens, bien sûr, et dans les électroniciens, mais surtout dans le travail des logiciens. Or, dans les années 1950, si on avait dit « Est-ce qu'il y a une science qui ne sert à rien et qui ne mérite pas d'être subventionnée ?» on aurait dit la logique. Or, n'est-ce pas, maintenant, on en arrive donc à une troisième révolution industrielle où tout est dans la recherche théorique préalable. L'ingénierie du vivant, regardez, c'est un cas fabuleux. L'ingénierie des protéines, l'ingénierie de la cellule, tout ce qu'on appelle le génie génétique, ben avant, ouais, bon, c'était pour les docteurs qui expliquaient quelques maladies, les cellules, c'était pour les cancérologues. Bon, mais on n'imaginait pas que ça deviendrait une industrie, d'accord ? C'est donc la recherche théorique sur la génétique, purement théorique, une recherche qui, au départ, n'aurait dû servir à rien, sauf à guérir éventuellement quelques maladies, qui est la source d'une des plus grandes industries du XXIe siècle. Donc, je vous donne entièrement raison. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, un philosophe contemporain qu'on appelle M. Hautoy a créé pour cette science du XXIe siècle le concept de technoscience, c'est-à-dire une science et une technique qui forment un couple fusionnel où il n'y a plus d'avancée technologique majeure sans recherche théorique préalable approfondie et où toute recherche théorique approfondie finit par déboucher sur des applications, ce qui n'est pas bien entendu sans, sans conséquences économiques.
Je voudrais quand même demander s'il n'y a pas d'exemple de recherche théorique qui a été suscité par des questions posées par une pratique expérimentale.
Bien sûr que si. Oui. Bien sûr que si. Mais monsieur, dans la première période, ce n'est que ça. Dans la première période, il faut se mettre, c'est pour ça que j'aimais bien partir de cet exemple du pré-socratique, n'est-ce pas, dans une fonderie. Il y a réflexion théorique. Pourquoi ? Je vous prends un exemple. Et pour une fois, on va prendre un exemple dans l'Antiquité. Prenez Aristote. Que fait Aristote ? Aristote se promène dans la nature et dans les ateliers. Et il observe des masses de faits qu'il ne comprend pas. Il a un modèle, qui est le modèle des quatre éléments. Et à la manière des quatre éléments, à la lumière des quatre éléments, il essaye de comprendre pourquoi une étoffe change de couleur. Pourquoi le fer qu'on trempe dans l'eau devient, le fer rouge qu'on trempe dans l'eau devient plus dur ? Pourquoi le verre est transparent et parfois il ne l'est pas ? Et donc il y a là, moi je crois que au début, n'est-ce pas, toute la recherche théorique, Aristote le dit très joliment, il dit que le Tomazain, l'étonnement, est le moteur de la science. Eh bien, je crois que c'est la même chose chez tous, si vous voulez. C'est il y a une pratique expérimentale, c'est-à-dire dont les résultats sont connus par essais et erreurs, sans connaître les principes. Et donc, qu'ont fait les savants jusqu'à Galilée, qu'a fait Léonard de Vinci, c'est de savoir pourquoi, quand on ajoute une poulie, eh bien le fardeau est encore moins lourd. Pourquoi ? Et donc là, eux se sont efforcés de mathématiser, de rationaliser une pratique artisanale. Et là, c'est un mouvement bipolaire, si vous voulez, c'est un aller-retour entre la pratique et la théorie. Et il y a des fois où on se trompe. Je donne un exemple. La pratique, vous savez que la Russie a été, la biologie soviétique a été complètement endeuillé, n'est-ce pas, par l'imposture de Lysenko. Lysenko était un biologiste qui avait eu la faveur de Staline. Et qu'est-ce que c'est que le système de Lysenko ? C'est un système où, qui nie la génétique et où les circonstances extérieures font tout. En réalité, Lysenko part d'une pratique artisanale, celle des horticulteurs qui pratiquaient ce qu'on appelait la vernalisation avec Michurin. Et puis, il en tire un système général. Et là, c'est le cas où on fait une recherche théorique à partir d'une réalité expérimentale et où on arrive à un résultat radicalement faux. Et dans le cas de Lysenko, criminel.
Vous êtes où ?
Là, derrière, monsieur derrière.
Voilà, encore vous, d'accord.
Si c'est possible de rajouter un petit peu. En fait, il y a des fausses pistes, il y a des cul-de-sac, vous le disiez tout à l'heure. Et les progrès comme ceux de la physique du solide pour les diodes, etc., hein, l'application du transistor, disons, pour être simple, c'est dû au succès d'un modèle sur la conductivité.
Oui, absolument.
Et bon, c'est souvent comme ça. Quoi, en fait.
Oui, monsieur, ce sont des pièces de puzzle qui se mettent ensemble. N'est-ce pas ? Il y a des choses, des théories dont on se dit, mais à quoi ça peut servir, jusqu'au moment où on s'aperçoit, mais ça convient exactement à cette réalité expérimentale-là. Vous savez, il y a des vieux exemples. Hein, lorsque Apollonius de Perge a fait son traité des coniques, hein, donc des sections coniques, ben, ça ne servait à rien, c'était une curiosité mathématique. Jusqu'au moment où Kepler s'est dit, et si les trajectoires des planètes étaient des ellipses, je n'aurais qu'à ouvrir Apollonios de Perge pour trouver les formules. Et c'était des ellipses.
Je voudrais, excusez-moi, vous reposer une autre question. En fait, la même question que j'ai posée à Monsieur Alfredo
Penavega,
qui est un sociologue, sur le fait que sur la science contemporaine, qui est une science de la complexité, s'il n'y avait pas quand même une influence de l'arrivée de l'ordinateur dans le fait d'avoir énormément de sources d'informations calculables qu'on puisse traiter en même temps. Et donc, Monsieur Penavega m'avait pour lui un peu trouvé ça comme un moyen supplémentaire, mais pas comme un élément déclencheur. Et moi, je me posais la question, s'il n'y avait pas la nécessité d'avoir cet outil de calcul extraordinaire, de pouvoir collecter autant d'informations d'un seul coup, qui a pu permettre l'émergence de cette notion de complexité.
Je crois comme vous. C'est la deuxième fois que je suis d'accord avec vous. Il est évident que ce n'est pas seulement un outil qui a permis de résoudre des problèmes existants, mais que l'outil logique formé par l'ordinateur a permis de formuler des nouvelles et des autres questions, ça c'est sûr. Oui. Je pense que ce n'est pas seulement un outil parmi d'autres. Je pense que le fait d'appréhender les problèmes avec l'ordinateur a fait émerger de toutes sortes de nouvelles questions.
Merci. Juste une petite curiosité par rapport à ce que vous disiez au début, que l'histoire des sciences ne pénétrait pas du tout la chimie.
Ah, je vous explique, attendez. Du point de vue institutionnel, bien sûr que si, qu'il y a des historiens des sciences qui font de l'histoire de la chimie. Il y en a qui sont venus ici. D'ailleurs, j'en ai fait moi-même. Il est beaucoup... C'est une expérience pédagogique, monsieur. C'est une réflexion comme ça. J'ai souvent remarqué qu'on peut assez facilement faire de l'histoire des maths dans un département de maths. On est bien reçu. Dans un département de physique théorique, on est bien reçu parce que la relativité, la mécanique quantique posent des problèmes philosophiques. Maintenant, dans le temps en biologie, on n'était pas bien reçu, mais maintenant les historiens et les philosophes des sciences, à cause de la biologie du développement, à cause de la génétique, à cause des problèmes éthiques, ils sont bien reçus dans les départements de bio. Les départements de chimie, eh bien, ce sont ceux qui restent les plus utilitaristes et qui disent « ça ne sert à rien ». Voilà, c'est ça le point de vue. Il s'agit non pas de l'intérêt de la discipline, mais de la psychologie de ses praticiens. Et chez les ingénieurs, alors là, quand il s'est agi de créer un cours d'histoire et de philosophie des sciences comme ingénieur à l'université de Liège, on a dit pas du tout, ça sert à rien. Il vaut beaucoup mieux leur donner des cours d'œnologie parce qu'ils devront faire beaucoup de déjeuners d'affaires. Je cite.
Et en effet, il y a des difficultés, même dans le cadre de la culture scientifique, de faire comprendre la culture scientifique et l'histoire des sciences aux ingénieurs, parce que, on peut se permettre de dire ici, il y a aussi un formatage.
Voilà. C'est la réponse classique. Ah, c'est tellement intéressant, je compte bien faire ça quand je serai pensionné. C'est les pires, ceux-là.
Donc ça n'empêche pas qu'on a des très bons historiens des sciences qui travaillent justement sur l'histoire des ingénieurs et qui ne demandent que d'une chose, d'aller dans les écoles d'ingénieurs. Et en fait, j'avais entendu quelqu'un l'autre jour qui est à l'ENS, qui nous a donné une conférence ici. Il me dit, de toute façon, c'est simple avec les ingénieurs. Ils disent, je construis des ponts.
Oui, moi, j'ai deux fils ingénieurs, c'est ce que c'est.
Un pont, c'est un pont. On se pose pas, voilà.
Pas besoin d'histoire.
Pas besoin d'histoire. Donc je vais te poser une question contemporaine, Robert, parce que je sais que j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. C'est quelque chose dont on aurait pu discuter à table, mais on n'a pas eu le temps. Que penses-tu de la crise actuelle? Que penses-tu de l'influence de la crise actuelle sur le monde de la science? Ça serait une autre conférence, Robert, mais je pense que c'est important qu'on ait ton avis.
C'est une belle conférence. Alors là, c'est quel avis tu veux entendre? Celui du scientifique ou celui du militant du PTB? PTB,
c'est... Tu fais ce que tu veux.
C'est parti du travail de Belgique. Hein, c'est un peu à gauche de la LCR. Bon... non, alors on va parler comme un prophète, c'est vrai, mais c'est...
Bon, on n'interroge que les économistes.
La question en réalité, c'est très intéressant, parce que, et on va parler en historien, actuellement, il y a, donc quel est le rôle de la science? du point de vue, n'est-ce pas, pour le moment, nous vivons clairement une troisième révolution industrielle au sens de mon maître Bertrand Gilles. Bertrand Gilles estimait qu'une révolution industrielle, c'est un changement de système technique. Qu'est-ce que c'est qu'un système technique ? C'est l'ensemble organique constitué par des matériaux, des technologies de transformation et des énergies qui interagissent. Ce que nous vivons pour le moment du point de vue technologique répond exactement à cela. Il y a de nouveaux matériaux, qu'il s'agisse d'aciers spéciaux, de matériaux composites, de supraconducteurs, etc. Il y a de nouvelles énergies, que ce soit le nucléaire ou les courants faibles utilisés dans l'informatique. Et il y a quantité de mécanismes de transformation, comme par exemple des quantités de mécanismes de transformation, comme tout ce qui est génie génétique. Donc on est d'accord, c'est une révolution. À la différence des autres, qui sont nés dans l'industrie, celles-ci sont, ces technologies-ci sont souvent nées dans l'université, c'est-à-dire dans le milieu de la recherche fondamentale. Et elles ont donné lieu, ça c'est, bon, moi je viens de Belgique, chez nous c'est très, très fort, beaucoup d'universités ont développé des parcs industriels avec des entreprises générées par l'université et dirigées par des professeurs, ce qu'on appelle des spin-offs. Tout ça est très bien. La question est évidemment, et là nous rejoignons la crise, la question financière. Pour lancer une spin-off, pour la faire fonctionner, il faut des rentrées financières et des investissements. C'est ici, et de façon tout à fait intéressante, que le rôle du grand capital intervient. Les universités, comme vous le savez, c'est un grand danger pour le moment, et en France, je comprends votre inquiétude, parce qu'en Belgique, on est déjà dedans. Les revenus des universités pour la recherche fondamentale ou pour la recherche déjà d'application viennent, bien sûr, des pouvoirs publics, mais viennent surtout du privé. Et la commercialisation des produits est évidemment le fait de l'industrie privée. Il y a, dans le monde industriel, qui contrôle déjà tout l'aval, c'est-à-dire toute la commercialisation des produits, il y a une grande tentation de contrôler l'amont, c'est-à-dire tous les processus d'élaboration, et de privilégier les recherches qui seront rentables à court terme. Classique, n'est-ce pas ? Certains services universitaires qui travaillaient sur des maladies tropicales se sont vus tout simplement couper les subsides, parce que le tiers-monde ne peut pas payer. J'ai entendu un industriel dire, très calmement, n'est-ce pas, en Afrique, on laisse faire le sida et la famine et puis on recolonisera. Bon. Donc, il est bien évident que même cette troisième révolution industrielle se fait dans le contexte de l'industrie capitaliste. Nos spin-offs médicaux, par exemple, finissent tôt ou tard par rejoindre le processus de concentration de l'industrie pharmaceutique. Elles sont reprises, nous avons connu combien de cas où de petites entreprises issues de la recherche universitaire étaient reprises par des géants pharmaceutiques. Et donc ici, nous assistons en même temps à une nouvelle révolution technologique et au dernier stade, n'est-ce pas, de la concentration capitaliste. Je m'excuse, mais désolé de devoir dire ça, mais il y a encore des bonnes choses à trouver dans les brocantes, et que si vous trouvez Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, c'est tout dedans.
Merci infiniment, Robert Halleux.